Radio Libre. Radio Libre à la Place des Lauriers. Une collab Café Prod et Jet FM. Bonjour et bienvenue, je suis Mélissa. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième édition de l'événement à la Place des Lauriers organisé par l'association Café Prod. Nous sommes avec Ludovic de Café Prod qui va en dire plus sur l'association.
Bonjour à tous les trois et bonjour à toute l'équipe de Jet FM. Du coup, Café Prod, qu'est-ce que c'est ? Café Prod, c'est une association culturelle, multiculturelle même je dirais, parce que c'est multifacette, qui existe depuis 2014. Et qui a été fondée par trois anciens membres de la chaîne de télévision nantaise que vous devez connaître, qui s'appelle Télé Nantes. Donc ces personnes sont Samuel Argentier, Aurélie Tessier et Anne-Lise Thomine, qui sont tous et toutes partis vers d'autres cieux. Et ils ont décidé de monter cette association pour continuer à faire ce qu'ils aiment, c'est-à-dire faire des projets audiovisuels de terrain pour les gens, et notamment les gens du quartier de Bellevue, vu que c'est ici qu'est située l'association Café Prod. Et pour vous en dire un peu plus, ça fait maintenant quelques années que Café Prod, grâce à la rencontre de nouvelles personnes, fait des projets avec des partenaires locaux comme Jet FM, comme le Festival des Trois Continents, d'autres associations comme la JSCB. Et depuis maintenant 2 ans, Café Prod essaie de lancer des jeunes cinéastes en herbe qui tentent leur aventure dans les métiers du cinéma, qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir accès à des écoles privées ou des écoles publiques aussi, qui sont très très sélectives. Et c'est par ce biais-là qu'on a rencontré Laure et Sarah pour Jet FM, parce que les jeunes sont venus faire une animation radio avec les filles. Et pour vous en dire un peu plus aussi, Café Prod, depuis 3 ans maintenant, s'est lancé dans l'événementiel, avec des événements sur la Place des Lauriers, des événements ciné plein air, des événements musicaux. Et l'année dernière, l'inauguration de la Place des Lauriers, qui s'appelle maintenant le Square Michel Palace.
Oui, et d'ailleurs, Michel Palace était une militante engagée. Elle œuvrait en faveur de l'égalité des chances pour les habitants de Bellevue. Cette femme avait une place importante dans la vie de son quartier, ce qui rejoint un peu le thème de notre émission d'aujourd'hui, la place des femmes dans la culture et le sport. Démarrons tout de suite avec nos chroniqueurs, Maëlys et Mohen. Vous faites partie de l'équipe de rédaction Radio Libre, un projet qui a émergé début 2022 sous forme de permanence libre. Le but est de permettre aux jeunes de Bellevue et d'au-delà de faire de la radio. Chers chroniqueurs, je vous laisse le micro pour introduire notre première invitée.
Eh bien, merci Mélissa. Je suis en effet avec Mohen pour l'événement de Café Prod à la Place des Lauriers. Et nous avons à nos côtés Joseph, une chanteuse et musicienne nantaise. Et alors, bonjour Joseph et bienvenue.
Merci pour l'invitation.
Nous allons te poser quelques questions, mais avant cela, prenons le temps d'écouter un extrait d'une de tes musiques afin de découvrir ton univers sonore.
Allez, on y va.
Avant le noir, qu'on se dise les choses sans filtre, qu'on s'écrive les mots qui fâchent, qu'on en profite avant de partir, qu'on la vit vraiment sans stress.
C'était donc Esprit Lent, une de tes musiques pour laquelle tu as fait un super clip.
Merci.
Et nous invitons d'ailleurs le public à aller le découvrir sur YouTube. Alors Joseph, peux-tu nous parler de ton métier, de ce qui t'a donné envie de choisir cette carrière musicale ?
Ouais, alors déjà, ça fait 2 ans que je travaille sur mon projet. J'ai sorti mon premier EP en fin 2021, qui s'intitule « Jamais tout sans rien ». Et voilà, c'est un EP que j'ai construit avec des amis à moi. Donc Louis, qui était à la technique, Ellie aussi, qui m'a soutenue dans tout le processus créatif. Nassira, avec qui j'ai partagé mes années lycée et avec qui on partage les mêmes références musicales. Et voilà, avec ce noyau dur-là, on a construit ce premier EP. Donc moi, c'était ma manière de m'introduire et de me présenter en fait à un public, à la communauté, à la petite communauté qui me suit sur Instagram et qui a grandi et qui est arrivée à plus de 1000 abonnés hier. Donc voilà, je suis contente. On va pas faire non plus des longues minutes sur les abonnés, mais je pense que c'est plutôt de voir que avec des chiffres significatifs, le projet grandit en fait et réunit de plus en plus de monde. Donc c'est agréable de voir ça grandir. Et puis voilà, cette année, du coup, j'ai été lauréate du collectif de l'édition 4. Donc c'est un incubateur de la scène rap, hip-hop à Paris. Donc fondé par le studio des variétés YouTube en partenariat avec Virgin. Donc voilà, là j'ai eu l'opportunité depuis fin janvier d'aller sur Paris, de rencontrer des professionnels et d'en savoir un peu plus en fait sur le fonctionnement de l'industrie musicale. Et voilà, c'est vrai qu'à Nantes en fait tout ce qui a alimenté mon projet, c'était quand j'étais au conservatoire que je prenais des cours de chant, de rythme, que j'apprenais à chanter en harmonie, à lire des partitions, tout ça. Donc voilà, toute la partie théorique classique, donc c'était vraiment mon bagage. Et voilà en fait de me nourrir de tout ça entre Nantes et Paris, c'est ce qui a fait maintenant Joseph, le personnage que je présente aujourd'hui au public.
Et d'ailleurs, quel a été le déclic pour te lancer dans cette carrière alors ?
C'est intéressant que tu poses cette question-là parce que j'ai l'impression que quand je rencontre des artistes, il y a un moment qui fait qu'on passe d'un côté à l'autre, du côté de on fait les choses pour soi et d'un moment de se dire mais en fait... On veut en faire notre vie et de le partager à d'autres personnes, que ce soit des adultes, des plus petits, des ados, tu vois. Et du coup, moi, à ce moment-là, c'était quand j'étais en bac plus 1, donc j'étais en école de design. Je rencontrais un artiste qui était un ami à moi, qui s'appelle Digri, et qui, lui, était sélectionné aux Inouïs du printemps de Bourges, donc l'un des plus grands tremplins nationaux en France. Il m'a dit, mais tu fais de la musique, est-ce qu'il y a moyen que tu m'épaules pour brancher mes instruments et tout sur scène, aller porter, tout ça, parce que je suis tout ça, je peux pas, voilà. Quoi. Et du coup il m'a dit bon si ça te tente on se voit et puis tu m'accompagnes sur les Inouïs et on voit ce qui se passe après. Donc quelques mois après j'étais dans le métro parisien à marcher dans les escaliers avec des gros trucs lourds et tout, mais en fait à ce moment là c'était pendant mon deuxième semestre à l'école de design en fait, et je me suis aperçue que le design c'était pas forcément le médium que j'appréciais le plus à modeler, et que en fait la musique me parlait le plus, et que ça prenait sens pour moi de développer ma carrière professionnelle qui est à son début quoi, dans la musique. Donc voilà, je pense que c'était à ce moment-là, parce que lui aussi avait des opportunités, je voyais tout ce qui se passait derrière les coulisses, le fait de rencontrer aussi des labels, des éditeurs, des producteurs, des productrices de tournées. Donc je pense qu'en fait c'est un côté que quand on est au lycée ou au collège on nous apprend pas tout ça. Quand on a envie de faire de la musique, on nous dit tapez dans vos mains dans les temps et on sera tous contents quoi. Donc voilà, je pense que c'était à ce moment là en fait le déclic vraiment.
Alors on ne sait pas beaucoup de choses sur toi, et une des questions qu'on se pose c'est: est-ce que Joseph est un nom de scène ?
Oui, Joseph est un nom de scène.
Et pourrais-tu nous dire pourquoi ce nom de scène en particulier ?
Je vais dévoiler mon vrai prénom du coup. Voilà, dans la vraie vie, je m'appelle Justine Nguyen. J'ai aussi deux prénoms vietnamiens. Je peux vous les dire, vous pourrez m'appeler comme ça après si vous galérez pas trop à le dire. C'est Phuong Thao Justine. Et sur ma carte d'identité, en fait, j'ai trois prénoms. Et en fait, pour moi... La musique, c'est un côté qui m'est très personnel. Donc je partage une partie de mon âme. Mais je pense que de se choisir un prénom comme quand on écrit une histoire dans un film, on définit des personnages, on leur donne un caractère. Et peut-être que c'est nourri aussi de la personne qui l'écrit. Et donc moi, en musique, en fait, je voulais aussi avoir une distance entre ma vie privée, avoir quand même ce jardin-là secret qui m'est personnel et qui m'est précieux, et de livrer aussi une part de moi qui est aussi précieuse, mais que je choisis de mettre dans ce personnage que j'incarne. Et de choisir Joseph, en fait, c'est pour moi garder le J de mon prénom Justine et de garder un prénom mixte, en fait, parce qu'il y a un E à la fin et que quand on le dit, on l'entend au masculin. Et quand on le voit écrit, on se dit « Ah, en fait, c'est peut-être un prénom de meuf. » Et quand on me voit, on se dit « Ah, elle a un look androgyne. » Et du coup, c'était plus pour moi correspondre aussi à mon apparence, comment j'apparais face aux gens. Parce que quand on prend place dans le divertissement aussi par la musique, on représente une image. Et pour moi, je voulais définir cette image-là de moi qui, en fait, fait partie de moi, que je suis toute petite. Je fais du foot, on me dit que je suis un garçon manqué. Je peux autant porter des robes et je me sens féminine. Enfin, voilà, quoi. Il y a un peu ce truc que je voulais mêler, en fait, dans cette représentation-là de moi, quoi.
Alors, tu chantes en français. Qu'est-ce qui inspire alors tes textes et te motive à écrire en français ?
Alors, j'écris beaucoup en français. Je suis d'origine vietnamienne aussi, donc je pourrais très bien écrire en vietnamien. Malheureusement, j'ai un langage de maternelle en vietnamien, mais je peux communiquer avec mes parents en mélangeant le vietnamien et le français. Donc j'ai quand même gardé cette partie-là culturelle de mes parents, en fait. Mais voilà, d'écrire en français, en fait, pour moi, c'est quand même une manière de se livrer et d'être proche des gens à qui je livre ces chansons-là, parce que bah, déjà, je suis née en France et que bah, c'est ma langue maternelle aussi. Donc voilà, pour moi, en fait, c'est naturel d'écrire en français parce que c'est comme ça que je communique avec les gens. Certes que je peux avoir du mal à exprimer, par exemple, des sentiments, je sais pas, de regret, de nostalgie, d'amour, d'incertitude. C'est des choses que j'ai du mal à exprimer et que je commence à faire doucement grâce à ces interviews. Donc merci JetFM et Café Prod pour l'invitation, je répète. Ouais, pour moi, d'écrire en français, je pense que c'est un truc... en fait, c'est assez naturel, les mots viennent comme ça. Après, en fait, j'ai commencé aussi à écrire en anglais un peu par mimétisme avec les artistes que j'écoute. Je suis tombée amoureuse, moi, de Ben Howard avec sa guitare et qui me parlait, en fait. Et plein d'autres artistes, Tamino, Bon Iver, même Ford & Son. Donc tout le côté très anglophone, folk. Et en fait, doucement, bah, j'ai commencé à écouter de la chanson, des chansons françaises et aussi mélanger avec ce que mes cousins écoutaient. Donc c'est du hip-hop, R&B, du Drake, Jhené Aiko, Kehlani, tout ça. Donc j'ai été baignée un peu dans ces trois océans-là musicaux. Ça me paraît plus naturel et plus spontané d'écrire en français et d'être aussi plus juste par rapport à ce que j'ai envie de délivrer. Et ouais, comment je pense, en fait, dans ma tête, je pense en français, donc j'écris en français, et voilà, quoi. J'arrive pas à penser en trois langues ou quatre en espagnol, en plus, donc c'est pas possible, quoi.
Tu nous as dit que tu avais fait des études de design avant ça, mais est-ce que, pour toi, la musique était une certitude avant ça ?
Je sais que j'ai grandi dans une famille... mes deux parents sont vietnamiens, sont nés au Vietnam et sont arrivés en France beaucoup plus tard. C'est vrai que, en fait, eux ont vécu une vie différente de la mienne. Donc moi, j'ai eu la chance d'être née en France, eux aussi au Vietnam, mais en fait, on a vécu dans des contextes totalement différents. La musique, en fait, depuis que je suis petite, quand je réanalyse là, tout le chemin que j'ai parcouru, je me dis qu'en fait, oui, c'était devant moi. Le fait que j'allais faire de la musique quand j'étais petite, que je regardais mon père faire de la guitare avec ses amis et qu'il aimait ça, en fait. Ou même, il avait des groupes avant qu'on soit né avec mes sœurs. J'ai deux sœurs et lui, bah, du coup, avant, il a vécu beaucoup plus en France que ma mère. Et après, ma mère est arrivée. Et il avait des groupes, du coup, avec la communauté vietnamienne, en fait, à Paris. On a grandi, il voulait nous inscrire au conservatoire. Donc, c'est là que je suis arrivée au conservatoire. Mes sœurs, elles faisaient de la danse, ma petite sœur du violon. Donc il y avait vraiment cette envie-là aussi de nous donner accès à ce qu'eux n'avaient pas et ce qu'eux, je pense, rêvaient de faire quand ils étaient plus petits. Donc voilà, il y a eu ce chemin-là. Après le conservatoire, j'ai voulu aussi, moi, créer mes propres chansons aussi par mimétisme parce que j'aimais écouter les chansons d'autres artistes qui écrivaient eux-mêmes. Donc j'ai commencé à faire ça et petit à petit, bah, comme je disais après, par rapport au déclic, en fait, c'est hyper lié. C'est que je commençais à faire tout ça dans ma chambre. Je vois que, en fait, ah, c'est possible de faire de la musique, d'être sur scène, d'être connecté avec des gens, mais d'avoir aussi son espace et d'être là en tant que femme à occuper un espace et à choisir comment livrer ses messages. C'est ce qui donne du sens, en fait, à ce que je fais, et je pense qu'on devrait tous, en fait, être là-dedans plutôt que d'être forcé à, je sais pas, être médecin, architecte, ingénieur. C'est les cerveaux de notre société, mais je suis convaincue qu'il y en a d'autres dans d'autres domaines et que voilà, on peut aussi réussir à vivre dans ces domaines-là artistiques, quoi.
Et as-tu été confrontée à des problématiques liées à ta place en tant que femme dans la musique ?
Non. je pense, bah, en fait, j'ai grandi aussi avec des modèles qui m'ont montré que quand tu travaillais dur, tu peut y arriver, en fait. Et moi, je pense directement à ma mère, c'est que elle est arrivée en France, elle ne parlait pas un mot français, donc déjà il y a un décalage culturel. Elle est arrivée dans les années 90 et comment dire, elle a dû apprendre la langue, s'intégrer, trouver un travail, nourrir ses enfants, Donc, enfin, s'adapter en fait avec un environnement social qui n'était pas le sien quand elle était au Vietnam. Je pense que d'avoir eu ce modèle-là, ça m'a permis moi aussi de me formater, mais d'être paramétrée pour tout donner, quoi que je veuille en fait, et d'y arriver, parce qu'en fait, bah, je vois, moi, ma mère, elle s'est donnée pour qu'on ait une vie hyper confortable, moi et mes sœurs, moi et ma famille, mon père, exactement pareil, et du coup, en fait, moi, dans ce que j'entreprends, je me dis pas, ah, je vais faire comme ma mère, mais en fait, je le vis comme ça, parce que c'est comme ça qu'ils m'ont éduquée, et que je me vois pas faire les choses autrement, en fait. Je me dis que les choses... Enfin, je vais pas attendre que les gens fassent les choses pour moi, pour que je réussisse dans mon projet, et que j'atteigne la réussite, qu'elle soit personnelle ou extérieure. Enfin, voilà, je préfère l'idée à un projet en fait, et pouvoir manager toute une équipe comme je le fais là actuellement, et de faire les choses comme je l'entends et tout donner quoi. Enfin, voilà. Après, la question d'être femme ou homme, c'est pas une problématique dans mon projet, parce que en tant que juste être, je sais que je lead un projet, que chaque personne qui rentre dans mon projet sont en phase avec ma vision, et que si je lead et qu'ils sont là avec moi, c'est qu'ils adhèrent à cette vision-là, et je suis la femme qui est en train de gérer l'équipe, certes avec l'aide d'autres de mes amis, en fait, parce qu'on est d'abord amis, et on est quand même principalement des... Enfin, il y a des mecs dans l'équipe, et il y en a beaucoup plus que des meufs. Quand je parle de Nassira, après, derrière, tous les techos, c'est des mecs, quoi. Donc moi, je suis bien contente d'être avec Nassira, parce que c'est aussi, pour moi, comment dire, un côté un peu rassurant, de se dire que tu es avec une femme quand même dans ton projet, et qu'on se comprend sans se dire les choses longtemps quoi. Après, bon, avec les gars, moi quand j'étais en primaire, je jouais souvent au football avec les mecs, et voilà, j'avais peu de potes meufs aussi, mais je m'entendais bien avec. Donc voilà, moi, d'être dans une équipe avec des femmes ou des hommes, je cherche pas non plus la parité à 50-50, parce que d'abord c'est un feeling, et si je m'entends pas avec quelqu'un qui est très compétent, enfin une femme très compétente, et qu'il n'y a pas de feeling, je vais pas me forcer à travailler avec cette personne-là. Et inversement, également pour les hommes, s'il n'y a pas de feeling, je vais pas travailler avec ces personnes-là non plus. Donc je pense que c'est plus une question d'humanité et de connexion en fait, avec l'âme quoi.
Dans tes clips, on te voit incarner un personnage, Joseph. Quelle image ou message veux-tu retranscrire avec ce personnage ?
Déjà, je pense, même avant cette image-là, il y a un peu ce travail de réflexion sur moi-même que je fais constamment. Il y a ce truc de, je suis fille de deux parents vietnamiens, et moi, de faire de la musique, c'est un privilège énorme. Et voilà, dans les médias, je vois peu de modèles asiatiques qui font de la musique et qui ont atteint et qui sont ancrés dans le paysage musical français. Déjà pour moi, c'est de pouvoir représenter cette image-là de moi, de me dire ok, je suis comme ça, mais en fait pour d'autres personnes qui me regardent, on peut se dire que en fait c'est possible de faire de la musique en fait, et d'en vivre si on s'en donne les moyens. Après, bon, voilà, il y a quand même des conditions dans la vie qui font qu'on peut ou pas faire des projets. Mais je crois en cette possibilité-là. Et après, voilà, à travers les clips, pour moi, c'est un médium et qui permet d'être visible au plus grand nombre. On peut aller sur YouTube très facilement et c'est gratuit. Je suis aussi très attachée à ce côté-là cinématographique, de travailler l'image comme moi, j'aime la recevoir. C'est-à-dire quand je vais aller voir des films ou des séries, moi j'aime bien m'identifier à des personnages et de me dire « Ah ok, moi je suis émue parce que je retrouve ça dans cette personne-là » ou juste de me dire « Je vais à la rencontre d'un personnage et cette facette-là me fascine » ou j'ai envie d'en savoir plus en fait. Et du coup moi, à travers les clips, c'est ce que je mets à l'intérieur. Je mets une part de moi. Ce que j'ai besoin d'extérioriser aussi, parce que d'abord on fait de la musique pour se faire du bien à l'âme, et ensuite on réunit des gens. Donc voilà, il y a tout ça de combiné dans les clips. Après voilà, du coup, si on parle de Esprit Lent, pour commencer, c'était un clip beaucoup plus symbolique en fait, donc avec des tableaux en noir et blanc, avec du mouvement, avec de la danse qui symbolise un peu le tourment dans les pensées et un sentiment de confusion. Après, il y a eu Alarme Rouge que j'ai réalisé, Esprit Lent, je l'ai co-réalisé avec Eyal Deniol, qui est un de mes amis aussi de mon BTS audiovisuel, et qui lui était à l'image, donc il a plusieurs casquettes comme mes amis qui sont dans l'équipe. Donc voilà, c'est hyper agréable de bosser avec eux. Après, à l'arme rouge, j'ai commis un drowning en session live que j'ai réalisé. Et il y a eu aussi Pur, où j'ai voulu mettre en avant un couple de femmes, donc le désir féminin en fait. Et voilà, tout ça, ça avait du sens pour moi parce que c'est intimement connecté à moi. Et c'est aussi une manière pour moi d'être, comment dire, authentique avec le public. Et de pas non plus apporter trop d'artifices comme la célèbre ville de Dubaï qui est construite construite en artifice. Donc voilà, moi c'est pour ça que je fais des clips aussi. Je pourrais très bien m'en affranchir, mais je crois qu'il y a des chansons que j'aime mettre en image et d'autres que je préfère laisser vivre en audio tout simplement.
Avant de se quitter, peux-tu nous rappeler tes actualités, tes dates et tes futurs concerts ?
Mon prochain concert, ce sera le 8 octobre à Angers, au Garage. Je serai en coplateau avec Vémar, qui est un autre artiste rap. Donc voilà, je serai accompagnée de Antoine à la batterie, donc ce sera un duo. On fera un set de 1 heure que j'ai présenté hier au TNT. Donc c'est le terrain neutre. Théâtre, à Nantes. Donc voilà, c'était une première pour moi de faire 1 heure. Donc voilà, un concert à Angers, j'ai des amis là-bas, donc c'est super. Et si l'équipe de Jet et de Café Prod veulent venir, vous êtes les bienvenus. et ouvert à tous, c'est ça que je voulais dire, c'est ouvert à tous. Donc là, je suis en train de préparer mon prochain clip sur la chanson qui s'intitule Plus besoin, qui est en extrait d'une des vidéos YouTube. Voilà, et j'aimerais pouvoir sortir un EP là début 2023. Je suis en train de maqueter, j'expérimente aussi ces chansons-là en concert, donc savoir comment le public peut être réceptif. Et voilà quoi, plein de belles surprises, j'espère pour bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux.
Merci pour ces mots, Joseph.
Ouais.
Et pour ta présence au festival à la Place des Lauriers, organisé par Café Prod et le Festival des Trois Continents, avec JTFM au micro. Nous allons écouter un autre de tes morceaux et proposer ensuite à Bilal, président du JSC Bellevue Football, de nous rejoindre sur le plateau pour répondre à quelques questions. Okay. À tout de suite.
Bah, merci beaucoup.
Dis-moi tout ce que tu ressens. Je ne laisserai pas le vide s'emparer de nos âmes pleines d'amour. Je peine parfois à dire ce que j'ai. Donne-moi suffisamment que je puisse faire le nécessaire. Je n'imagine plus la vie sans toi, c'est juste impossible. J'ai posé mon bouclier à terre, prête à tout pour toi. Quand je suis dans tes bras, je me sens tellement bien. Je me sens tellement bien. La pluie et l'orage, notre peau un héritage. Sera-t-on accepté? C'est humain de t'aimer, ouais.
Bonjour et bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes toujours à l'événement à la Place des Lauriers organisé par l'association Café Prod. Notre émission concerne la place des femmes dans la culture et les sports. Nous accueillons tout de suite notre second invité. Je vais donc laisser la parole à nos chroniqueurs.
Merci Mélissa. Je suis Mohand et je suis toujours en présence de ma coéquipière Maëlys. À nos côtés cette fois, Bilal, présidente de JSC Bellevue Football. Bonjour Bilal et merci d'être avec nous pour cet événement.
Bonjour à vous trois, merci de m'accueillir.
Nous souhaiterions vous poser quelques questions. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire ce que veulent dire les initiales JSC ?
Jeunesse, sportive et culturelle.
Alors, j'aimerais savoir un peu plus sur ton parcours avant de devenir du coup président de ce club de foot.
Alors, très long. J'ai commencé partout. J'ai commencé par être joueur déjà dans un premier temps. Ensuite, avec l'école, c'était un peu compliqué d'être joueur, donc je me suis un peu plus focalisé sur notre équipe première. Je les accompagnais pendant leur match, je remplissais les bouteilles d'eau tout simplement. Je m'occupais d'une tablette pour... on a une tablette pour faire les matchs, donc je m'occupais de faire la tablette. Ensuite, de fil en aiguille, j'ai un peu développé ma place dans le club. Je me suis approprié le fait de m'occuper des sponsors. J'ai développé un peu cette partie-là parce que quand je suis arrivé au club, c'était pas connu entre guillemets. Donc j'ai développé un peu ça. Et ensuite, l'ancienne présidente est venue à partir. On m'a proposé le poste et j'ai sauté dessus. J'avais parlé à personne justement du fait que je voulais être président et l'occasion s'est présentée et j'ai pas hésité, c'est mon club de cœur donc j'ai sauté dessus.
Qu'est-ce que ce club représente pour toi ?
Tout. Non, il représente beaucoup de choses. Déjà, dans un premier temps, c'est le club de mon quartier. Moi, j'ai vécu ici toute ma vie. C'est un club qui accompagne justement les jeunes. On fait beaucoup de social. En plus de bien se débrouiller dans le football, je pense qu'on se débrouille bien aussi dans le social. Il représente aussi plein de choses pour pas que pour moi, c'est aussi pour les habitants de Bellevue. Il représente plein de choses. C'est devenu depuis quelques temps une plaque tournante entre guillemets. Il y a beaucoup de personnes qui y passent, qui discutent avec nous, qui regardent les entraînements juste pour passer le temps. On leur offre un café, on parle de tout, de rien. Enfin, c'est devenu. Je vois plus mon quotidien sans club maintenant. C'est clair et net.
Alors, ton club de sport semble être un lieu fédérateur dans le quartier. Pourrais-tu nous expliquer ce qu'il y a en dehors des entraînements de foot ?
Alors, par où commencer ? Déjà, comme je disais précédemment, on fait beaucoup de social. Depuis maintenant, je crois, 5 ans, on fait de l'aide aux devoirs. Donc avant les entraînements, les joueurs viennent et les licenciés, mais pas que, parce qu'on ferme la porte à personne. Les licenciés viennent, on les aide à faire leurs devoirs. Ensuite, ils font leurs entraînements, on les raccompagne chez eux s'il y a besoin. Pendant les vacances scolaires, on fait tout justement pour les occuper. On les emmène un peu partout, cinéma, théâtre. On fait en sorte qu'ils s'intéressent à beaucoup de choses. On fait aussi des sorties aquatiques. On a quelqu'un au club qui s'entraîne et qui est très fort au plongeon, donc on les initie au plongeon. Voilà, on fait plein de choses. En tout cas, on fait tout justement pour ne pas les laisser au quartier entre guillemets pourrir. Voilà.
Qu'est-ce que tu penses de l'émergence des sections féminines ?
C'est une très belle chose. Et nous, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un avant et un après la Coupe du Monde féminine de football qui a eu lieu là maintenant il y a 2 ans. Avant, il y avait une demande mais qui n'était pas croissante, c'était pas une grosse demande. On ressentait la demande mais il n'y avait pas assez de monde justement pour faire une équipe, pour faire une section féminine. Mais après la Coupe du Monde de football, ça a été un truc de fou. Beaucoup de femmes sont intéressées. On a reçu au moins peut-être 100 demandes en ce qui concerne juste 2 filles pour venir s'inscrire. Donc on a mis en place une section féminine. Elle se débrouille très bien. On a réussi à en signer une au FC Nantes il n'y a pas longtemps. Donc en fait on fait plein de choses. On y va crescendo. On a commencé, elles étaient petites, elles avaient 8-9 ans. Maintenant on va jusqu'à la catégorie U12. Et on fait tout aussi pour que la place de la femme et de la fille dans le football soit présente et soit normale. Parce que je suis pas bête, je le vois qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est le garçon sur le terrain, les filles à la cuisine. Nous, justement, on a mis en place un atelier pour montrer à nos licenciés que la place de la fille peut aussi très bien être sur un terrain de football. Et elles peuvent parfois même mieux se débrouiller qu'eux.
Quelles sont les démarches à suivre dans le but d'avoir, d'atteindre une égalité homme-femme dans le sport en général ?
Je sais pas s'il faut atteindre une égalité, mais en tout cas, les démarches à suivre, c'est déjà de ne pas porter de jugement. Parce que je pense que beaucoup de personnes s'attachent au regard des autres. Malheureusement, c'est pas bien justement de. On peut donner son avis, mais pas jusqu'à priver quelqu'un de faire quelque chose. Si une fille veut faire du sport, si une fille veut faire du foot, qu'elle vienne. Justement, je pense que déjà la première des choses à faire, la première démarche à suivre, c'est déjà de pas porter de jugement. Et déjà là, on aura, je pense, bien avancé.
Est-ce que tu peux nous parler des prochains temps forts du club ?
des temps forts. Il y en a toute l'année. Hein. On a des matchs tous les jours. Là, par exemple, cet après-midi, on a 3 matchs à domicile en ce qui concerne les jeunes, U18, U17 et U15. On a aussi notre équipe senior qui joue environ une semaine sur deux à Bellevue. Donc, et on essaye, je vais vous mettre dans le secret, mais on essaye de développer un tournoi à la JSC parce que faut qu'on se serve de justement cette aura et ce. Enfin, on a acquis justement avec le temps et avec les petits qu'on a signés une notoriété. Donc, faut qu'on se serve de cette notoriété justement pour faire un tournoi et ramener pourquoi pas de belles équipes à Bellevue.
Et avant de se quitter, aurais-tu une anecdote à nous raconter concernant le club et le quartier en fin de compte ?
Alors, une anecdote. J'en ai énormément. En tout cas, on passe beaucoup de bon temps. On rigole beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent au club. Et c'est vraiment, comme je l'ai dit justement précédemment, c'est devenu une plaque tournante dans le quartier. Et justement, moi, ce qui me fait mal un peu, je sais que je ne vais pas répondre à ta question, mais ça me tient au cœur ça me tient à cœur d'en parler. On a, comme je le disais précédemment, on a une notoriété. Et on pourrait justement se servir de cette notoriété pour aider les jeunes du quartier à s'en sortir. Mais malheureusement, on n'a pas les infrastructures pour accueillir assez de monde. Et justement, à travers ce micro, j'aimerais passer un appel à l'aide à la ville de Nantes, à qui que ce soit, pour justement essayer d'avoir un deuxième terrain pour qu'on puisse accueillir un nombre de licenciés double, que notre nombre de licenciés double et que notre nombre de signatures en club professionnel double aussi.
Eh bien, merci beaucoup Bilal pour le temps que tu nous as accordé.
De rien, merci à vous.
Et donc, nous allons maintenant laisser nos micros de côté et rejoindre le public du festival pour profiter de l'événement.
En effet, notre émission touche à sa fin. Nous remercions nos invités, Joseph et Bilal, ainsi que Ludovic pour leur participation. Et un grand merci à nos chroniqueurs, Maëlys et Mohen, et à Sofiane à la technique. Comme vous l'aurez compris, c'est la fin de ce plateau radio, mais ce n'est pas la fin du festival. À 18h, place à la musique avec le DJ nantais DJ Mos, puis à partir de 21h, ces projections cinématographiques en plein air. Vous pourrez retrouver un court-métrage suivi du film d'animation japonais Mirai, ma petite sœur, de Mamoru Hosoda. En attendant, profitez bien de l'événement avec les food trucks et le bar. Merci Café Prod et merci JTFM. À bientôt sur Radio Libre. Au revoir.
Au revoir.
De rien.
Oui, merci.